Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Troll et Légendes pour l'édition 2019 en compagnie de Vivien de l'association Tolkien Deal. Donc bienvenue à toi.
Merci, bonjour à tous.
Dis-nous, qu'est-ce que le Tolkien Deal en fait ?
Alors Tolkien Deal, donc, c'est une association loi 1901 qui a pour but de promouvoir les œuvres de Tolkien dans le monde francophone, donc à la fois en France mais également à l'étranger, Belgique, Suisse, et tous les pays francophones.
Alors juste au niveau de ses écrits ou vraiment tous les supports ?
Alors principalement ses écrits et tout ce qui concerne lui directement, mais effectivement on a aussi à cœur de promouvoir tout ce qui a trait à son œuvre par ailleurs, à la fois au niveau par exemple cinématographique, mais également illustration, voilà, les... globalement tout ce qui va toucher à l'œuvre de Tolkien de près ou de loin.
Et donc finalement vous travaillez directement avec les éditeurs, avec
alors effectivement, oui, on a
distributeurs de films peut-être.
Alors
aussi
les films non, parce qu'on on n'est pas encore très développé, mais effectivement avec les éditeurs on a des partenariats, donc on présente leurs œuvres, donc on a des partenariats avec eux, on a une relation assez proche avec ces éditeurs, oui, tout à fait.
Et vous avez déjà eu contact avec les héritiers de Tolkien ou pas du tout ?
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on a pu, certains d'entre nous, rencontrer son petit-fils Adam, qui a par ailleurs été traducteur des Contes perdus, donc un des volumes de son grand-père. On l'a rencontré à l'occasion d'un séminaire sur Tolkien il y a quelques années. Et sinon indirectement, puisqu'on a la chance d'avoir pu traduire certains textes de Tolkien avec l'accord de leurs avocats. Donc c'est une demande qui était remontée à leurs oreilles, mais nous on n'a jamais rencontré directement les héritiers.
Donc des textes que vous avez traduits et qui ont été publiés ?
Qui ont été publiés sur notre site. Alors ce sont des textes pas forcément très grand public, c'est surtout des textes qui concernent l'une des thématiques importantes pour Tolkien, qui sont les langues inventées, les langues elfiques. Voilà, donc on a sur notre site internet, un endroit où on a pu traduire quelques textes comme ça de Tolkien. Voilà.
Donc c'est pas vraiment des récits, quoi. Ça va être plus
non, ça va pas être
des
récits. Voilà, ça va être des recherches sur des mots elfiques, par exemple des noms. Là, comme ça, je pourrais vous dire, par exemple, des noms de rivières au Gondor, le fameux Gondor qu'on voit dans les films, qui règne, que Aragorn à la fin, sur lequel Aragorn va régner à la fin. Eh bien, il décrypte tous les noms des rivières de ce pays-là, par exemple. Donc, c'est vraiment très très axé langue, un petit peu abrupt pour tout un chacun. Mais voilà, ce sont des textes un peu particuliers.
Donc, vous parlez couramment l'elfique.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, alors parler elfique, c'est très très délicat, voire impossible. On a un vocabulaire qui est très limité. C'est pas comme une langue normale, on va dire. Hein. On a un vocabulaire qui est assez strict et qui ne fait pas tout le panel de ce qu'on pourrait trouver. Hein. Voilà, on va savoir dire comment dire un arbre, mais on va pas savoir dire téléphone, par exemple.
D'accord. Mais on peut quand même créer des phrases. Il y a
on peut créer des
conjugaisons.
Phrases, il y a des grammaires, il y a des lexiques, des grammaires qui existent. Alors, moi, personnellement, je n'y connais pas grand-chose, mais il y a des gens qui s'y intéressent beaucoup, et notamment dans notre association. Si vous venez sur notre site, là encore, vous allez trouver une section entière dédiée aux langues inventées par Tolkien, mais également aux langues qui l'ont inspiré, puisque par exemple des langues comme le vieil anglais qui ont une forte inspiration sur son œuvre, on a un endroit où on en parle. Voilà.
D'accord.
Une section langue dédiée à ça.
Ça va être très très intéressant, très pointu finalement aussi.
Oui, alors on essaye d'être à la fois pointu sur des choses particulières, mais on essaye surtout d'être grand public, c'est-à-dire que on est dédié à la promotion de Tolkien, mais pour tout le monde. Hein, donc on va pouvoir s'adresser à des gamins qui vont venir nous voir pour avoir des infos assez triviales, comme à des personnes qui vont vouloir des informations très détaillées sur des choses comme les langues d'ailleurs, par exemple, qui sont particulièrement complexes. Voilà, on essaye de ratisser large, si je puis dire.
D'accord. Et vous, finalement, comment est-ce que vous avez découvert Tolkien ? Le livre est tombé de la bibliothèque.
Alors moi, j'ai eu la chance de découvrir Tolkien grâce à mes parents, qui m'ont offert, alors sans savoir ce que c'était, hein, quand j'étais, je devais avoir 9-10 ans, qui m'ont offert le Hobbit, un jour de vacances où je ne savais plus quoi lire. Quelques années plus tard, ils m'ont offert, pareil, dans les mêmes conditions à peu près, Le Seigneur des Anneaux, sans savoir d'ailleurs non plus que c'était la suite du Hobbit. Donc j'ai découvert ça quelques années avant les films. Et puis, j'étais ado en 2001-2003 quand les trois films sont sortis. J'ai commencé à m'y intéresser un peu plus parce que j'ai découvert avec tous les médias autour des films qu'il y avait autre chose que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit qu'avait écrit Tolkien. Et de fil en aiguille, j'ai lu un peu tout ce que je pouvais trouver à l'époque et je me suis intéressé aussi au site internet qui existait pour trouver plus d'infos et je suis rentré, je suis rentré dans l'association Tolkien. Et voilà, et me voilà avec vous maintenant, grâce à ça.
Et d'ailleurs, donc Tolkien, quand même, c'est un auteur qui a vraiment marqué le monde de la littérature, peut-être sans le savoir. Qu'est-ce qui fait qu'il a autant marqué l'univers de la littérature et de la fantasy en fait? Alors, qu'est-ce qui le démarque?
Je pense que c'est son originalité. Il fait un pont entre des textes plus anciens, des textes mythiques, mythologiques, que l'on connaît par ailleurs dans notre histoire européenne. On entend souvent parler des légendes nordiques, scandinaves, qui ont eu un fort impact. Et je pense que Tolkien est original en cela, qu'il arrive à traduire ces mythes un peu européens qui nous sont tous communs en Europe en quelque chose de plus moderne quand il est arrivé, d'amener quelque chose de différent là-dedans. Il fait un peu le pont entre ça, également aussi la littérature plus récente victorienne du 19e siècle, et puis ce qui est devenu la fantasy à sa suite en fait. Hein, il est un peu le père fondateur de cette nouvelle fantasy moderne qu'on trouve dans nos librairies maintenant. Parce qu'il a inventé un univers qui est complet notamment. Il va à la fois, on parlait des langues tout à l'heure, inventer des langues elfiques très complètes au sein de son univers, mais il va même inventer des fleurs, des noms de fleurs, de la botanique, des races qui sont très développées, des choses. C'est sa complexité en fait, je pense, qui est sa signature, la complexité de son univers et de son invention. Voilà.
Son univers qui est très 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 large, qui est vraiment prolifique. Pour vous, quel serait en fait son texte fondateur, celui vraiment qui est le pilier central
Alors, c'est une question délicate parce qu'en fait, l'une des choses qui caractérise l'œuvre de Tolkien, c'est qu'elle est majoritairement publiée depuis qu'il est mort. De son vivant, il a essentiellement publié Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, hein, dans l'univers de la Terre du Milieu. Par ailleurs, il a eu la chance de publier quelques autres textes, mais qui ne font pas partie intrinsèquement de la Terre du Milieu. Et en fait, les textes fondateurs de son œuvre, elles ont été publiées après. Alors, si on considère juste Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, moi je répondrais Le Hobbit, qui est un peu le récit qu'il a réussi à publier de son vivant, de lui-même, Le Seigneur des Anneaux étant une commande d'un éditeur, donc c'est un petit peu différent. Et sinon, le texte fondateur de tout son univers par ailleurs, c'est un texte qui s'appelle La Chute de Gondolin pour moi, qu'il a écrit dans les années 1916-1917, en fait en revenant de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Et il a écrit ça sur... pendant une convalescence en fait, hein, il a écrit ce texte, La Chute de Gondolin, qui est un peu une réminiscence de ce qu'il a vécu durant cette guerre sur le front de la Somme, hein, donc la chute d'une ville qui s'appelle Gondolin, qui était une ville cachée des elfes, qui était un peu le dernier rempart devant l'attaque de Morgoth, le seigneur sombre, le grand seigneur maléfique de cette époque en Terre du Milieu. Qui raconte comment cette cité cachée finalement est détruite, attaquée et détruite par Morgoth, ce que ça va engendrer sur cette histoire ultérieure de la Terre du Milieu. Voilà. Et ce texte-là, il est le premier arrivé, enfin, en tout cas l'un des premiers, mais le plus important pour sa future œuvre complète.
D'accord. Donc finalement, bah là, vous avez répondu à la question qui arrive un petit peu après. Au niveau de son actualité, puisque La Chute de Gwendoline, voilà, est sortie il n'y a pas très longtemps, a priori. Dans ce qui, dans son actu aussi, c'est le biopic qui arrive, si je ne me trompe pas, en juin, qui va raconter sa jeunesse, finalement, comment lui, il en est arrivé à écrire.
Alors, a priori, ouais, effectivement, ça va être sur les premières années de sa vie. Alors, de ce qu'on a pu voir sur, sur les trailers qui sont sortis, effectivement, ça va être sur son enfance, adolescence, et puis dont, ce dont on vient de parler, justement, donc la guerre en France, Première Guerre mondiale en France, qui lui ont inspiré, à, tous ces événements qui lui ont inspiré après son œuvre, notamment aussi son amitié avec un groupe de, d'amis qu'on appelle le TCBS, pour Tea Club and Barovian Society, qui était un groupe d'amis adolescents qu'il a eu quand il était niveau collège-lycée. Donc quatre, ils étaient tous les quatre comme ça, ils ont voulu révolutionner un peu... on est ado, on essaye de révolutionner le monde.
De refaire le monde, refaire le monde autrement.
Voilà, exactement. Et l'idée, c'était qu'ils refassent le monde à travers leurs écrits. Et de ces quatre amis, donc seul Tolkien et un autre ont survécu à la Première Guerre mondiale. Les deux autres sont décédés, ont été tués dans les premiers mois, voilà, dans les tranchées. Voilà, donc a priori, ce biopic devrait aborder toutes ces thématiques. Également aussi, bah, comment Tolkien s'est découvert cette passion pour les langues, qui forme un peu la base de son œuvre, hein, on disait tout à l'heure. Et voilà, donc on attend de voir ce que ça va donner. On a des acteurs assez impressionnants qui ont été embauchés pour ce film, hein, notamment donc Nicolas Hoult qui incarne Tolkien. Non. Reste à voir ce que ça va. Si le scénario tient la route, si on est quelques-uns à avoir discuté, notamment, on craint un peu l'aspect mélange entre le fantastique et le pur biopic, puisque dans le trailer, on voit par exemple des cavaliers, des Nazgûl, se battre en face de gens dans les tranchées. Donc voilà, c'est peut-être ce mélange-là qui nous fait craindre un peu que ça soit pas aussi bien que ça. Mais
ouais, c'était le côté romantique, j'avoue,
ou le côté romantique qui est peut-être un peu
surenchéri.
Bon, ça, voilà,
c'est
ça
des choix. Vous savez si d'ailleurs les héritiers de Tolkien ont validé ou pas le biopic?
Je ne le sais pas, mais il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas eu de contact du tout entre les héritiers.
Ils restent vraiment dans leur monde. Enfin, dans leur monde.
C'est pas qu'ils restent eux dans leur monde, non, puisque on pourra parler peut-être après de la série Amazon. C'est juste que je pense qu'ils n'ont pas été consultés et qu'il n'y a pas eu de lien entre eux. Maintenant, je dis ça, je répète, je ne le sais pas, hein, j'ai pas de preuve d'une quelconque.
On le saura peut-être après la sortie du film.
Peut-être, voilà, mais a priori, j'ai de fortes présomptions qu'il n'y ait pas eu de lien.
D'accord. Et donc,
la série Amazon, par contre, à l'inverse, donc c'est peut-être remettre en contexte, donc il y a eu quelques mois, quelques années, en fin 2017 de mémoire, on a appris que Amazon Prime, donc les studios Amazon, avaient acheté les droits pour adapter des œuvres de Tolkien. Alors, quelles œuvres pour l'instant, on ne sait pas encore bien, avaient acheté ces droits-là. Et en l'occurrence, la famille Tolkien, pour une fois, est dans la production.
Hein, donc, était actrice réellement.
Réellement actrice, pas comme les films du Seigneur des Anneaux et du Hobbit à l'époque. Puisqu'à cette époque-là, seuls les studios et seuls les ayants droit cinématographiques étaient dans la production. Donc la famille Tolkien, pour la première fois, va participer pleinement et entièrement, a priori, à cette production. Et cette série, donc, qui devrait sortir 2020-2021, a priori. Aux dernières nouvelles, puisque les derniers teasers de la production sont parus ces dernières semaines, aborderaient le second âge, le deuxième âge, et une histoire qui est centrée autour de l'île de Numénor. Alors l'île de Numénor, on va peut-être le préciser, ce sont les ancêtres de Aragorn, hein, donc des humains qui ont une durée de vie très, très longue, qui sont très nobles, et qui vivaient donc sur une île de Numénor qui a on va spoiler un petit peu, mais dont la fin s'est avérée catastrophique, voilà, sans aller plus en détail.
Chute à une sorte d'Atlantide peut-être.
Atlantide,
un
tout
peu,
à fait, Atlantide en terre du milieu. Et voilà, donc on n'en sait pas beaucoup plus. Les derniers teasers sont bienvenus au second âge et bah, on attend de savoir ce que ça va réellement aborder. On espère le savoir dans les prochaines semaines puisque certaines rumeurs disent que la production va commencer cet été.
D'accord.
Donc qui dit production.
On sait à peu près où, non, les décors. Alors, c'est encore sa surprise.
Bah, ça va être la surprise. Il y a des rumeurs qui disent que ça va commencer en Écosse.
Donc, d'accord.
Voilà, un peu plus près que la Nouvelle-Zélande pour les films. Maintenant, tout ça, ce sont des rumeurs, donc on n'a rien de certain pour l'instant. Et tant qu'Amazon n'aura pas communiqué,
officiellement,
on n'aura pas plus de détails. Voilà.
Donc ça, c'est le côté, on va dire, télé, cinéma. Et côté roman, il y a eu une nouvelle traduction, enfin la version poche qui est sortie l'année dernière.
Ouais, alors effectivement. Ouais.
Est-ce qu'il y a vraiment une différence avec la précédente ? Est-ce qu'il y a des changements ?
Alors oui, effectivement, il y a une grosse différence.
Est-ce qu'on est plus proche vraiment là pour le coup de l'original ?
Ouais, ouais. Alors justement, donc peut-être remettre aussi en contexte, donc cette nouvelle traduction, en fait, elle a commencé en 2012 avec la retraduction du Hobbit, suivie donc en 2014 et 2016 de cette retraduction du Seigneur des Anneaux, hein, donc la Fraternité de l'Anneau, qui n'est plus la Communauté de l'Anneau, les Deux Tours et le Retour du Roi. Et effectivement, c'est une retraduction principalement pour moderniser le texte, hein, le rendre un peu plus lisible en version française, mais également et surtout pour le rendre plus proche du texte de Tolkien et de ce qu'il voulait voir en traduction. Alors, donc le texte a été modernisé, les poèmes et les chants ont été pour la première fois mis en vers, puisque dans la première traduction, peut-être que vous vous en souvenez pour l'avoir lu, beaucoup de lecteurs se trouvaient un peu bloqués face à ces vers un peu particuliers, puisque ça, c'était pas chantant, c'était pas poétique.
Non, c'était un peu saccadé, voilà, c'était pas forcément ce qui allait être le plus simple.
Voilà, c'était sec. Et donc, cette nouvelle traduction apporte pour la première fois dans Le Seigneur des Anneaux, voilà, des chants vraiment chantants, pour pas dire autrement, donc des poèmes lyriques. Quand on le lit, on a vraiment le rythme qui nous vient naturellement. C'est une première chose. Et puis, par rapport aux noms propres, des noms propres qui sont cette fois traduits selon des règles que Tolkien avait écrites pour les traducteurs. Hein, il s'était rendu compte que certaines traductions, notamment de mémoire suédoise ou allemande, des noms de ces personnages n'étaient pas du tout raccord avec ce que lui avait imaginé, avec l'étymologie des noms de ces personnages. Et donc il avait écrit
un petit guide.
Un guide, voilà, tout à fait. Bah, c'est d'ailleurs le nom que ça porte, le guide des noms pour les traducteurs du Seigneur des Anneaux. Et donc le nouveau traducteur en français, donc, qui s'appelle Daniel Lauzon, a accès à ces textes. Il est par ailleurs traducteur depuis plusieurs années d'autres bouquins de Tolkien, donc il les connaît bien, il connaît bien toute son œuvre. Et donc il a bénéficié de tout ça pour nous apporter une nouvelle traduction qui s'avère plus proche de l'original, à tout point de vue en fait. Alors le pendant un peu particulier de ça, c'est que les gens ayant depuis 40 ans lu la première traduction
vont être
un peu perdus, effectivement, notamment vis-à-vis de ces fameux noms propres. Hein, donc on peut rappeler par exemple dans la première traduction, Bilbo Baggins s'appelait Bilbon Sacquet, et dans cette seconde traduction, il s'appelle Bilbo Bessac. Ou Bessac,
Oui, en effet, c'est pas tout à fait le même. Bon, il y a Bilbo, donc normalement on devrait.
Voilà, il y a des raisons. Et au final, on retrouve par exemple Bilbo Bessac, on retrouve l'idée de sac qu'on avait également dans Sacquet, qu'on a dans Baggins. Voilà, des choix justifiés, justifiables vis-à-vis de ce que Tolkien désirait, mais qui pour les lecteurs sont parfois un peu
perturbants
à la lecture. Néanmoins, ce qu'on voit, ce qu'on a entendu pas mal, nous, en tant qu'association, donc on entend beaucoup les lecteurs nous dire que cette seconde traduction est plus simple à lire. la première traduction, par exemple, vous êtes peut-être entendu parler qu'il y a des lecteurs qui nous disaient les 50 premières pages sont très difficiles à lire.
C'est un petit peu hermétique. D'accord.
Eh bien, la nouvelle traduction, on a plutôt le côté inverse, c'est-à-dire que des lecteurs nous disent « Ah ouais, j'avais jamais réussi à lire ces 50 premières pages, je m'étais arrêté, ça m'avait un peu saoulé. » Avec cette nouvelle traduction, le rythme coule tout seul et finalement, ça se lit assez vite, assez bien. Voilà, donc c'est un des avantages aussi. Je le disais, les chants sont plus agréables à lire. Donc voilà, de ce point de vue-là, on y gagne beaucoup. Voilà, je vais pas vous la vendre plus, mais je pense qu'il y a un vrai travail du lecteur à faire, c'est-à-dire si on a lu Le Seigneur des Anneaux en première traduction, faire abstraction de ses noms propres
et se
dire
tout,
voilà, recommencer, dire qu'on va retrouver une œuvre, on la connaît, mais on va la redécouvrir d'une manière différente, un peu comme ce qu'on fait quand on lit un livre et qu'on voit le film après.
Tout à fait.
En l'occurrence, avec Le Seigneur des Anneaux, on a tous fait ça. Voilà, découvrir cette nouvelle traduction. Quitte à dire après, bah finalement on l'a pas aimé, bah ça arrive, mais se laisser le temps et l'opportunité de dire finalement peut-être qu'elle va être très bien et peut-être qu'on va aimer ça différemment. Voilà.
C'est ça, lui laisser une seconde chance quand même.
Voilà, tout à fait, ouais, exactement.
Donc vous disiez donc de la poésie, des langues inventées, bon ça fait quand même un sacré travail. Est-ce que vous savez un peu comment il fonctionnait? Il a fait des études de linguistique pour essayer pour comprendre comment ça fonctionnait, beaucoup de recherches, où finalement il y allait un petit peu la fleur au fusil
Alors c'est compliqué avec Tolkien encore parce qu'il a un mode de fonctionnement qui me semble assez particulier. Alors, vous disiez, il a fait des études de linguistique, tout à fait. Il a très tôt, en fait, il s'est découvert une passion pour les langues. Donc, il a étudié le vieil anglais, le moyen anglais. Il a étudié le gallois, une langue morte qui est le gothique. Il s'est intéressé même à des langues qu'il n'a jamais su parler, comme le finnois.
Il connaissait, le finnois est très difficile.
Très il a parlé le français, il parlait l'espagnol, enfin voilà, quelqu'un de intellectuellement, avec un très gros bagage. Donc effectivement, les langues forment un peu la base de ce qu'il voulait faire. Il dit dans une lettre de mémoire, il dit que les langues sont la base de ses textes. Néanmoins, il ne va pas fonctionner que avec les langues. Il va s'inspirer, on le disait tout à l'heure, de la mythologie, de ce qu'il a lu. Et puis comment il va fonctionner? Il va fonctionner, alors ça c'est une question qui n'est pas évidente, il va mettre par écrit ce qu'il va inventer, et puis en fait tout au long de sa vie il va réécrire les mêmes textes dans différentes versions. On parlait de la chute de Gondolin tout à l'heure, dans le livre qui est sorti, donc la chute de Gondolin qui est sorti le 18 avril dernier là. On a par exemple tous les textes qui sont sur cette chute de Gondolin, qu'il a réécrit entre l'année 1917-1918 jusqu'à l'année 1950 et quelques, où il a écrit la dernière version. Donc il réécrivait ses textes. Alors là je parle essentiellement des textes du Silmarillion, particuliers, je répondrai après sur le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Voilà, il écrivait une première version. Au bout de quelques mois ou quelques années, ça ne lui convenait plus parce qu'il avait évolué dans sa tête. Donc il la réécrivait, il en changeait la forme, le fond aussi. Donc par exemple, on a des récits qui ont été écrits d'abord en prose, qui ont été réécrits sous forme de vers, en poème, ce qu'on appelle en lais. Donc il réécrivait tout au long de sa vie, et puis le Silmarillion en l'occurrence, il n'a jamais réussi de son vivant à le publier parce qu'en fait il n'a jamais eu une version finalisée qui lui convenait. Donc c'est finalement son fils Christopher Tolkien qui l'a publié. Après, pour les deux grandes œuvres dont on parlait, donc Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, c'est un texte qu'il a d'abord inventé et lu pour ses enfants. Donc il a trois fils et une fille. Il les a lus écrits pour ses enfants, et puis un jour il a donné le manuscrit à lire à une de ses amies qui elle-même l'a passé à une de ses amies qui était éditrice,
Et voilà comment il a publié son texte. Mais comment il a travaillé le texte, bah, il les faisait évoluer en fonction de ce que ses enfants voulaient, en fonction de lui, ce qu'il appréciait comme, comme chose. Alors le Hobbit par exemple, voilà, c'est la légende entre guillemets que lui a raconté, c'est qu'un jour sur une copie de... d'un de ses élèves qui corrigeait, il a marqué au fond d'un trou vivait un hobbit. Et puis de fil en aiguille, le récit lui est venu tout seul, avec ses inspirations, avec aussi le fait que bah, en parallèle il écrivait le Silmarillion, donc il a pioché ceci et cela. Et puis donc on le disait par rapport à ses enfants. Le Seigneur des Anneaux, lui par contre, est un peu différent. Il l'a écrit d'abord parce que c'était une demande de son éditeur. Donc l'éditeur, donc, suite au succès du Hobbit, lui a demandé de lui écrire une suite. Et donc il a commencé à réfléchir là-dessus, mais son mode d'écriture se rapprochait un peu de ce qu'il avait fait avec le Silmarillion, c'est-à-dire qu'il écrivait un premier chapitre, etc. Il continuait, et puis au bout d'un moment, avec l'évolution dans sa tête du récit, il revenait, il changeait... Le caractère de tel ou tel personnage. Par exemple, le fameux Aragorn, qu'on appelle Grandpa ou Arpenteur selon la traduction, à l'origine, c'était un hobbit, dans les premiers manuscrits du Seigneur des Anneaux, c'était un hobbit qui s'appelait Trotteur.
Voilà, donc, il a bien évolué.
Voilà, il a bien évolué et finalement il devient un humain de haute naissance qui règne sur la Terre.
Il n'aurait peut-être pas eu autant de succès au cinéma en s'appelant Trotteur et en étant
voilà,
tout petit.
Effectivement, il n'aurait peut-être pas eu le même impact, ça c'est sûr. Voilà, donc c'était quelqu'un qui était un. Alors, sans, on pourrait dire vulgairement un pinailleur, qui n'arrivait pas forcément tout le temps à stabiliser son texte et à en faire quelque chose de publiable. Donc il a eu la chance d'être soutenu pour le Seigneur des Anneaux par quelqu'un de très connu également, qui est C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia, qui a eu un fort impact sur lui, pour l'écriture et pour finir le Seigneur des Anneaux. Il est probable que sans ce soutien et sans le soutien de sa famille, de son fils Christopher par exemple,
le Seigneur des Anneaux,
voilà, le Seigneur des Anneaux aurait été inédit aussi pendant plusieurs décennies. Même peut-être jusqu'à sa mort.
Voilà. Est-ce qu'il écrivait aussi peut-être pour extérioriser des traumatismes ou finalement c'était alors, seulement pour ses enfants ou pour lui comme ça on ne sait peut-être pas.
Il est probable qu'il y ait un peu de tout ça. Là, je ne suis pas spécialiste de cette partie-là. Néanmoins, on va reparler de la chute de Gondolin. Par exemple, ça, c'est effectivement un texte, on le sent tout de suite. La première version de la chute de Gondolin, il voulait parler, extérioriser son expérience des tranchées. On a, par exemple, dans ce texte, des dragons qui sont des transports de troupes. Des dragons qui ressemblent à des chars d'assaut, hein, donc Première Guerre mondiale, les tanks étaient tout récemment arrivés, inventés.
Oui,
hein. Donc c'est des choses un peu comme ça. Dans son œuvre globale, on retrouve aussi des scènes un peu de cet ordre-là. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, on parle souvent de l'épisode dans le Marais des Morts, où on a des figures elfiques et humaines qui sont mortes dans le marais et que Frodo, il arrive, il les voit comme ça,
il se demande.
Voilà. Donc ça, c'est dans le film, effectivement, on a une belle scène comme ça, qui pourrait effectivement être une réminiscence des tranchées, de ce qu'il a vécu. Maintenant, c'est, je pense pas, la priorité de Tolkien, c'était pas d'extérioriser tout ça. Je pense que, a priori, ce qui ressort plus, c'est surtout qu'il voulait donner un contexte à ses langues d'invention. Il dit, dans une autre lettre, il dit « je voulais... créer un monde dans lequel il était réaliste qu'on dise qu'on rencontre un elfe et qu'on puisse lui dire en elfique voilà, je te rencontre, bienvenue, bonjour, enfin, voilà, des choses un peu comme ça. Mettre un contexte dans son invention et il était peut-être frustré de ne pas réussir à créer une langue complète.
Voilà, donc, qu'il satisfasse.
Voilà, c'est essentiellement ça qui ressort, je pense, de son œuvre. Bon, là, c'est avec quelques réserves.
Et vous, alors finalement, si vous deviez conseiller un récit, ça serait lequel?
C'est compliqué encore comme question.
Ouais, je sais, j'aime bien.
Moi, j'ai une affection particulière pour le Hobbit, parce que, on l'a dit, c'est un récit que finalement il a inventé. comme ça, qu'il a réussi à publier sans que ça soit une demande de quelqu'un, vraiment par sa propre volonté, entre guillemets. On ne l'a pas forcé à rien. Parce que le Seigneur des Anneaux, quand on lit ses lettres, quand on lit sa biographie, on voit qu'il y a mis du temps, hein, il a mis près de 15 ans à l'écrire. Ça a été vraiment le parcours du combattant. Donc ça, c'est pas un récit, à mon avis, qui lui ressemble de tout, hein, si vous voulez, c'est à 100%. C'est un peu saigné à blanc pour l'écrire. Alors que le Hobbit, moi, je trouve qu'il a une certaine...
plus authentique.
Voilà,
plus,
une certaine saveur authentique. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Après, je le conseille parce que moi, il me parle un peu plus. Je l'ai découvert quand j'étais petit, donc il y a aussi
l'attachement
de cet ordre-là. Voilà. Voilà. Après, c'est à chacun de trouver aussi son compte. Il y a des gens qui aiment le côté épique, qui vont plus tourner vers le Seigneur des Anneaux, des gens qui vont préférer le côté chronique du Silmarillion. Mais comme je disais, son œuvre est aussi assez diverse. On a des textes très enfantins pour les...
Il y a les lettres du Père Noël.
Par exemple, voilà, tout à fait, les lettres du Père Noël.
Avec des jolies illustrations à l'intérieur.
Qui sont vraiment pour des enfants à la fois 4-5 ans à 8-10 ans, par exemple. Et des textes très très complexes comme La légende de Sigurd et Guðrún ou La chute d'Arthur, qui sont des réécritures de textes mythiques, mythologiques, qui là... sont plus qui visent plus d'un public déjà qui connaît Tolkien et qui
donc c'est pas voir qui connaît les mythes
originaux voilà. Donc c'est pas forcément quelque chose par lequel commencer, mais moi j'ai déjà vu des gens venir sans connaître Tolkien, qui voient marquer la chute d'Arthur, qui savent que ça fait référence au roi Arthur et puis qui vont se dire bon, on part avec,
c'est une porte d'entrée comme une autre,
voilà. Après c'est chacun. Et puis il y a des gens qui ne lisent pas Tolkien, mais qui vont découvrir Tolkien par ses illustrations aussi, par son monde pictural. On sait qu'il a dessiné des cartes, qu'il a dessiné, on parlait des lettres du Père Noël à l'instant, voilà, des choses un peu comme ça, qui vont le découvrir par ce biais-là. Voilà, donc c'est une autre porte d'entrée également de Tolkien. Voilà.
En parlant d'illustration, il continue d'inspirer les créateurs, puisqu'il y a, il y a Aubusson qui crée des tapisseries de Bilbo.
En fait, ils ont commencé par Bilbo, par une tapisserie représentant Bilbo sur son tonneau descendant la rivière. Et en fait, ils vont faire à Aubusson, c'est vrai, ils vont faire 21 tapisseries de mémoire. Donc 21 illustrations de Tolkien adaptées sur un format 3 mètres par 2 mètres en tapisserie. Il y en a de mémoire, je crois, il y en
3,
a 4.
4 voilà, je crois qu'il y en a 4 qui sont déjà terminées.
Et ça va durer comme ça jusqu'en 2021. Donc il faut aller dans la Creuse, la cité de la tapisserie à Aubusson, pour voir celles qui sont créées. Et puis, j'invite aussi les gens à se déplacer à partir de l'automne 2019. À la Bibliothèque nationale de France, à François Mitterrand, pardon, à la BNF, je vais y arriver, excusez-moi, où il y a une grande exposition qui va avoir lieu, hein, donc avec 200 manuscrits de Tolkien en exposition pendant quelques mois, donc ça doit ouvrir le 21 ou le 28 octobre 2019.
En tête, moi j'avais le 21, mais des fois, voilà. J'avais pas tout le temps les mêmes dates sur les sites, donc c'est un peu fluctuant.
C'est soit le 21, soit le 28, je ne sais plus laquelle, et jusqu'à février 2020 en exposition, voilà, avec sans doute des choses autour, des animations autour, des événements autour.
Oui, des conférences.
Des conférences, des séminaires, avec notre association qui aura peut-être des choses à faire aussi. Donc, voilà,
de beaux événements en tout cas pour redécouvrir l'univers de Tolkien.
Ces prochaines années, ces prochains mois, ces prochaines années, ça va être intéressant, l'actualité autour de Tolkien. Ouais.
Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques
questions.
Bon festival.
Merci.